Que le nom du Seigneur soit béni. Vous m'entendez très bien? Non, si j'ai filmé tout à l'heure, c'est pour pouvoir... Nous avons une petite de Biélorussie parmi nous et les parents sont orthodoxes. Et on leur avait dit, ben écoutez, nous sommes des chrétiens évangéliques et donc votre petite ira à l'église. Et donc je filmais simplement pour leur envoyer par Viber un petit peu pour qu'ils aient une idée du lieu que fréquente leur petite fille durant son séjour. Que Dieu soit béni, vraiment. Je pense qu'il est bon dans la vie chrétienne de s'interroger à certains moments. Il en est qui font de l'introspection en permanence. C'est très négatif. Ils sont constamment en train de faire de la plongée sous-marine intérieure. Nous sommes parfois appelés à de l'introspection lorsque celle-ci est conduite par l'Esprit de Dieu, à la lumière de son Esprit. Mais il est bon également, et la Bible nous exhorte, à nous interroger, à nous poser des questions, à nous examiner. Paul dira à un moment donné, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Il est important de s'interroger, de faire le point et de se dire, mais où en suis-je dans ma marche avec Dieu? Ai-je progressé? Ai-je grandi? Où en suis-je? Est-ce que j'ai régressé? Suis-je en train de faire du surplace? Suis-je en train de devenir un chrétien de plus en plus mature? Ou suis-je en train de m'infantiliser de plus en plus? Paul fera le reproche aux chrétiens de Corinthe en leur disant, à ce stade, vous devriez être des maîtres, des hommes matures, capables d'assumer et d'assimiler de la nourriture solide, mais en tant que maître, vous devriez être capable d'enseigner les autres et d'être des modèles. Mais hélas, vous en êtes encore au stade de l'enfance et vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Le Seigneur s'attend à ce que nous portions du fruit. Vous vous souvenez l'histoire du figuier stérile qui était là, qui occupait la terre inutilement, qui ne portait pas de fruits et qui, par conséquent, n'était pas une source de bénédiction pour les autres, ce qui est notre vocation. Les années passent vite. Les décennies s'égrènent. Je jette un coup d'œil en arrière et je me dis, 35 années se sont écoulées depuis que j'ai donné ma vie à Christ. Bien des années se sont écoulées depuis que j'ai réalisé au fond de moi-même que le Seigneur m'appelait à le servir. Mais force est de constater que lorsque je jette un coup d'œil en arrière, lorsque j'examine ma propre vie, mon cheminement, ma marche avec Dieu, force est de constater en ce qui me concerne qu'elle a été marquée par une absence flagrante de fruits. Ma croissance a été retardée considérablement. Et cela a eu un impact à l'égard des projets et des buts que le Seigneur a pour moi de toute éternité. Alors je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Et souvent ça a été une cause de frustration, d'incompréhension, de découragement, voire même de rébellion. Il est des choses que j'ai faites ou que je n'ai pas faites. Il est des démarches dans lesquelles je suis entré et qui n'étaient pas du tout conforme à la volonté de Dieu, et j'en ai récolté d'amères conséquences. Alors là, je peux comprendre qu'il y a eu des situations où ce qu'un homme sème, il le récolte. Ça, c'était, je pouvais le comprendre. Mais il me semblait que, revenu au Seigneur, mettant ma vie en règle avec lui, cherchant de tout mon cœur sa présence, dans des prières ardentes, associées à des longs jeûnes pour le toucher, pour entendre une parole, pour avoir un moment d'intimité avec lui. Mais il me semblait que malgré tous ses efforts, j'avais toujours l'impression que Dieu se tenait à distance et que les promesses de Dieu, si extraordinaires soient-elles, étaient pour moi lettre morte. Je me suis mis à m'interroger, j'ai cherché, j'ai lu, et je me suis dit, il doit y avoir des causes profondes qui m'échappent et dont probablement je ne suis pas responsable. Ces causes profondes existent. Il y a parfois tout un passé qui vous colle à la peau et à l'égard duquel vous devez être libéré et affranchi. Il y a des situations qui ne dépendent pas entièrement de vous, mais ce n'est pas une excuse. Car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et un jour, je m'en suis ouvert, totalement découragé, et je sentais que l'incrédulité cherchait à grignoter ma foi, que l'incrédulité cherchait à endurcir mon cœur. Je sentais même de la colère contre Dieu, en me disant, mais on peut tout faire, visiblement, pour certains ça marche. En quelques années de vie chrétienne, et il y en a parmi nous, ils n'ont que quelques années de vie chrétienne et ils sont déjà des hommes et des femmes mûrs qui peuvent servir le Seigneur avec fruit. Et il en est d'autres qui restent au stade de l'enfance, de l'immaturité et qu'il faut constamment, constamment encourager, exhorter, secouer, nourrir en permanence. Alors je me suis dit, mais, et c'est confortable de se dire cela, parce que ça nous déresponsabilise, je me suis dit, c'est que je ne suis pas prédestiné. Certains le sont. J'ai été même à un moment donné jusqu'à remettre en cause mon salut. Et un jour, je m'ouvrais à une jeune fille. J'étais désespéré et je sentais que, comme Asaph le dit dans le psaume 73, je sentais que mes pieds étaient sur le point de glisser. Et j'étais sur le point de finalement perdre la foi en me disant, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pas réaliste. C'est beau. Mais c'est pas vrai pour tout le monde. C'est confortable. Vous n'y êtes pour rien, c'est pas vous. Mais j'étais forcé quand même de constater que pour d'autres, la vie chrétienne semblait marcher. Ils progressaient avec Dieu. Ils entendaient sa voix. Les bénédictions de Dieu devenaient des réalités dans leur vie. Ils croissaient dans la grâce de Dieu. M'ouvrant à cette jeune fille, je me dis, mais il me semble que je fais tout ce que j'ai à faire. J'ai bien des défauts, je ne suis pas parfait, mais je ne vis pas de double vie. Je n'ai pas un péché particulier que je pratique avec plaisir. Je prie, je jeûne, je fais des longs jeûnes, je prenais même des vacances pour jeûner, moi. Mais j'avais l'impression que ça ne servait à rien, que Dieu se tenait toujours aussi loin, qu'il était indifférent à mes dilemmes, à mes préoccupations. Et cette jeune fille m'écoutait, interloquée, étonnée, intriguée. Mais je la sentais attentive à l'Esprit de Dieu. Elle me dit, il te manque un élément fondamental qui conditionne toute ta vie chrétienne, qui conditionne tout le reste. Et cet élément, ô combien important, vital, s'appelle la foi. Je me suis dit, c'est trop simple. C'est trop simple, ça, la foi. Non, non, non. La foi, je sais ce que c'est. Oui, j'en connais la définition. Mais finalement, elle me dit, c'est ça. Lorsque j'étais malade, il n'y a pas longtemps, j'ai passé 9 jours à l'hôpital, de drôles de pensées m'ont habité. Je me suis dit, parce qu'on me disait que mon cœur était malade, mon épouse avait peur, moi pas du tout, j'étais inconscient de ce que j'avais, et je me disais, j'aimerais quitter mon corps un instant et aller dans la présence de Dieu et lui dire, Seigneur, où est le problème en ce qui me concerne ? Et revenir. Parce que j'ai un petit garçon quand même, une épouse. Quel est le problème? Et je m'imaginais en train de poser la question un jour au Seigneur, et peut-être que c'est ce qui t'arrivera le jour où tu vas comparaître devant le tribunal de Christ, et tu pourras enfin avoir un entretien avec le Seigneur pour lui poser toutes les questions que tu voudras, auxquelles tu n'auras pas eu de réponse, ou auxquelles il t'aura répondu, mais tu n'auras pas été attentif parce que Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne sommes pas attentifs. Toutes les fois que j'ai interrogé Dieu avec sincérité et avec l'ardent désir de faire sa volonté et d'obéir à ce qu'il me révélerait, Dieu a toujours parlé. Seulement, on attend qu'il nous parle d'une manière dramatique. Il vous parle au travers d'une prédication. Il vous parle au travers d'un conseil. Il vous parle au travers de sa parole. Et cette jeune fille m'avait dit ce que le Seigneur m'avait dit à de nombreuses reprises. Mais pour moi, c'était trop simple. C'était trop simple et c'était embarrassant parce que ça me responsabilisait. Je lui ai demandé au Seigneur, y a-t-il des malédictions sur ma vie qui m'empêchent d'avancer? Ces choses sont possibles. C'est possible qu'en fonction de l'arrière-plan, surtout si vous avez eu une implication dans l'occultisme, dans la magie, dans l'idolâtrie, que bien que chrétien, vous soyez encore tenu par ces choses qui doivent être révoquées. Et alors, vous êtes libre d'avancer. Mais je sentais que ça, je l'avais fait. On avait prié. Et si j'avais posé la question au Seigneur en disant, hein, Jésus, en fait, c'était ça, j'avais raison. Je pense que le Seigneur m'a répondu, ah bon? Ça m'est même jamais venu à l'esprit. Ah, parce que tu pensais que c'était ça? Ah ben, ça m'est jamais venu à l'esprit. Toi alors, qu'est-ce que tu vas chercher? Mais je pensais peut-être que tu ne m'aimais pas. Enfin, dans quelle langue est-ce que je dois te dire que je t'aime? Je pensais aussi que peut-être que j'étais pas prédestiné. Et m'aurait dit, laisse ça à Calvin. Personne n'est prédestiné à ne pas être aimé. Personne n'est prédestiné à être rejeté par Dieu. Personne n'est prédestiné à l'enfer. Loin s'en faut. Mais alors, si c'est qu'une question de foi, alors je suis passé à côté d'un sujet, d'un thème, d'une réalité qui, finalement, a été à l'origine de la stérilité qui a marqué ma vie. Et en étudiant les Écritures, en examinant ma propre vie, mais en étudiant les Écritures, je suis arrivé au constat suivant. Un problème, je vais prendre la foi et son contraire, l'incrédulité. Un problème, un manque de foi,
un problème d'incrédulité. Ce péché d'incrédulité qu'on ne stigmatise pas souvent, le péché d'incrédulité dans ta vie te causera plus de problèmes que tout autre péché et que tous les autres péchés réunis. Amen. Eh oui. Jésus stigmatisait l'incrédulité. Il était blessé par l'incrédulité. Et lorsqu'il ressuscite et qu'il retrouve ses disciples apeurés dans une pièce fermée à double tour, il les bénit, mais tout de suite après, et c'est très rare, Jésus leur fait un reproche. Il leur reprocha leur incrédulité pour n'avoir pas cru ce qu'il avait vu ressuscité. Dans ce réquisitoire terrible qu'il adresse aux pharisiens et aux scribes, et il dira « Malheur à vous, scribes et pharisiens, race incrédule et perverse. » L'incrédulité, c'est de la perversité. Pourquoi ? Parce que des pécheurs notoires, marqués par le péché, qui ont une propension au mensonge, s'autorisent à remettre en cause l'intégrité même de Dieu, on est dans la perversité la plus totale. Que moi, pécheur, peu fiable, corrompu de nature, que je puisse avoir l'outrecuidance, l'audace de remettre en cause l'intégrité de Dieu, oui, c'est de la perversité. Parce que lorsque nous sommes incrédules, nous ne croyons pas ce que Dieu dit, ça veut dire que nous sous-entendons qu'il est susceptible de mentir, mais c'est également une remise en cause de sa nature. Je remets en cause l'intégrité même de Dieu. Et ça, c'est pas anodin. Autant Jésus était émerveillé par la foi, il va admirer la foi du centenier. Le centenier romain, Jésus admire la foi du centenier. Il est scié, il est admiratif, il dit, mais jamais en Israël, jamais, pas une seule fois, je n'ai rencontré une telle foi. Par contre, il sera à un moment donné étonné de l'incrédulité de certaines personnes. Et Jésus s'étonna. Il ne put pas faire beaucoup de miracles à un endroit à cause de l'incrédulité, parce que l'incrédulité est une force nocive, est une force négative qui combat la foi, qui neutralise la foi. Et Jésus se trouve à un moment donné, à un endroit où il a grandi, il veut faire des miracles, il veut mettre sa foi en action pour glorifier Dieu au travers de miracles extraordinaires, mais il est incapable, il fait juste quelques miracles. Pourquoi ? En raison de l'incrédulité qui était prégnante dans cet endroit. Et il est dit, il s'étonnait. Pour étonner Jésus, il faut se lever de bonne heure. Si vous voulez que le Seigneur soit admiratif devant vous, ayez la foi. Mais si vous voulez l'étonner, faites preuve d'incrédulité. Et je pense que ça a été la cause de ma stérilité, de mon absence de croissance, et je pense que je ne suis pas le seul concerné par cela. Le serviteur de Dieu le plus loin de la terre pourrait vous imposer les mains en vue d'une guérison, en vue d'une libération, votre incrédulité annulerait l'effet de sa foi. Quand les gens venaient vers Jésus pour être guéris, il leur posait la question, croyez-vous que je puisse faire cela? Qu'est-ce qu'il voulait dire? On ne vient pas chez moi pour être guéri comme on va voir un guérisseur ou un magicien. Non. La guérison s'obtient par la foi. Est-ce que vous croyez que je puisse faire cela? J'ai besoin de voir la foi. Parce que c'est par la foi qu'on saisit les grâces de Dieu. C'est par la foi, mon juste vivra par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais par le moyen de la foi. La grâce est ce qui nous sauve, mais la foi c'est le bras qui se tend pour saisir le salut. Autrement, il n'y a pas de salut possible. Revenons-en un peu à la définition de la foi. On sait que le chapitre 11e de l'Épître aux Hébreux traite exclusivement du thème de la foi. Et son premier verset nous en donne la définition. Dites-le avec moi. Vous connaissez par cœur, ça. Or, la foi, avec moi, soyez pas timide, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une autre traduction plus proche de l'original nous dit ceci. Or, la foi est une ferme substance des choses qu'on espère. Une ferme substance. Et ce verset donc nous dit deux choses principales sur la foi. La foi est la substance des choses qu'on espère. Elle est tellement réelle, la foi, qu'on l'appelle substance. Substance. Elle est tellement réelle qu'elle peut être visible. On peut la discerner dans le cœur de quelqu'un. À un moment donné, Paul se met à prêcher. Il y a là un jeune homme qui l'écoute avec attention, qui boit ses paroles avec avidité. Et Paul discerne qu'il a la foi pour être guéri. Et laisse sortir la parole pleine d'autorité. Lève-toi, droit sur tes pieds. Instantanément, il était paralysé. Il se lève et il est guéri instantanément. C'est pas Paul qui l'a guéri, c'est Dieu qui l'a guéri. Mais c'est la foi de ce jeune homme qui s'est levé pour saisir la promesse de Dieu, pour saisir la guérison. Donc la foi, c'est la substance. Le mot grec qui est utilisé, c'est hypostasis. Et ce terme veut dire, littéralement, qui se trouve dessous, ou qui donne les bases pour quelque chose d'autre. On pourrait dire que la substance, c'est un peu comme les matériaux de construction que vous avez en vous. Vous avez tous les matériaux de construction. Et à un moment donné, ces matériaux de construction vont donner naissance à une maison construite. Vous avez la substance, tout est là. Il nous est dit également que la foi est la conviction des choses qu'on ne voit pas. Ou une autre traduction, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Elle a trait à des choses qu'on ne peut pas voir. Elle se rapporte, la foi, à l'invisible. On va également voir cette relation entre le visible et l'invisible dans Hébreux 11:3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il y a le contraste entre ce que l'on voit, ce que nos sens naturels peuvent percevoir, et ce que nous ne voyons pas. La foi nous entraîne au-delà du visible, vers l'invisible, vers la réalité fondamentale par laquelle tout l'univers a été créé, c'est-à-dire par la parole de Dieu. Donc, la foi biblique, il est des fois qui, il y a la foi biblique, nous verrons une autre fois, ou si j'ai le temps, et il y a la persuasion mentale, rien à voir avec la foi du cœur, et il y a la contrefaçon de la foi, qui ressemble à s'y méprendre, à la foi biblique. Donc, la foi scripturaire biblique se rapporte à deux réalités éternelles invisibles qui sont Dieu lui-même et sa parole. La foi biblique n'a que ces deux objets. La foi biblique se rapporte uniquement et exclusivement à deux réalités immuables, Dieu et sa parole. Bien sûr, dans le langage courant, on utilise le mot foi. J'ai foi en toi. J'ai foi dans cette estrade qu'elle ne va pas s'écrouler. J'ai foi dans un médicament. J'ai foi dans le pilote d'avion. J'ai foi dans le service postal, etc., etc. Cette foi-là, c'est une foi naturelle qui nous a été donnée par Dieu à tout être humain. Il nous permet de vivre, quand même. Malheur à celui qui n'a pas ce minimum de foi. Mais quand il est question de la foi biblique, ça n'a strictement rien à voir avec cela. Ça, c'est une foi naturelle, mais la foi biblique n'a rien à voir, absolument rien à voir avec cela. Alors, je voulais poser ce préalable pour qu'on comprenne bien, en réalité, ce qu'est la foi. Interrogeons-nous. Est-ce que je peux créer la foi? Est-ce que je peux, par moi-même, me lever et susciter, créer la foi par moi-même? Est-ce que c'est possible? Vous pouvez répondre. On ne peut pas créer la foi par soi-même. La foi doit nous être impartie par Dieu. C'est un don de Dieu. Non seulement c'est un don de Dieu, mais c'est le Seigneur qui est à l'origine de la foi. C'est lui qui va la susciter. Donc, si tu n'as pas la foi, ne t'affole pas, elle peut venir. Il y a une différence majeure entre la persuasion mentale et la foi. Vous pouvez être persuadé mentalement qu'une chose va arriver, que Dieu va vous bénir, mais ça n'a rien à voir avec la foi du cœur. C'est sûr que si vous lisez la Bible, vous allez être à un moment donné convaincu, persuadé. Mais la parole de Dieu, la semaine, lorsque notre frère Dan Lee est venu, et je voudrais juste dire, je refermerai rapidement la parenthèse, que même si vous n'êtes pas très à l'aise avec la dimension prophétique de son ministère, je vous encourage à écouter les enseignements remarquables qui ont été apportés. Faites la part des choses. Lorsqu'il nous a parlé de la différence qu'il y avait entre le logos et le rhéma, vous vous en souvenez? En grec, il y a plusieurs mots, mais il y en a trois essentiellement dans le Nouveau Testament. Il y a le logos. Au commencement était la parole. Ça, c'est le logos. C'est le mot logos qui est utilisé. Et ensuite, il y a un autre terme pour parler des écritures. C'est le mot graphé qui a donné orthographe. C'est lorsque la parole de Dieu s'imprime, caractère d'imprimerie, sur les pages de vos Bibles. Et puis, il y a le mot rhéma. Rhéma, ça veut dire, c'est une parole parlée, littéralement. C'est une parole qui est donnée. C'est une parole qui est parlée. Et il nous expliquait bien que, où notre pasteur nous a parlé de la parole objective et de la parole subjective. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce qui veut dire que je peux lire ma Bible, je peux la connaître par cœur. Si je n'ai que le logos ou le graphé, je n'aurai pas un atome de foi. Tout au plus, je serai persuadé mentalement. Mais la persuasion mentale n'a rien à voir avec la foi du cœur. Pour que la parole de Dieu nous fasse du bien, elle doit descendre dans notre cœur, dans notre esprit. C'est uniquement lorsqu'elle descend dans notre cœur qu'elle est en mesure de libérer son potentiel. Encore faut-il pour cela qu'elle soit animée par l'Esprit de Dieu. Donc, le rhéma, c'est une parole qui est donnée par Dieu, qui est soufflée par Dieu. C'est une parole que Dieu vous donne. C'est, si vous voulez, le logos, le graphé, qui par l'action de l'Esprit devient une parole de feu, une parole de vie, une parole animée par la vie de Dieu. Et c'est elle uniquement qui peut communiquer la foi. C'est pour ça que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17. Et ce qu'on entend, littéralement, ce qu'on entend, c'est une parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, je dois entendre, mais ce qu'on entend, c'est une parole de Christ. Ça veut dire que spirituellement, je ne peux entendre qu'une parole de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si je veux entendre spirituellement la parole de Dieu, si je veux que mon esprit entende la parole, capte la parole, saisisse la parole, elle doit m'être donnée par le Saint-Esprit. Autrement, vous l'entendez, mais c'est pas ça entendre. Entendre spirituellement, c'est recevoir une parole qui va me communiquer la vie. Et c'est cette parole-là qui va engendrer la foi. Ce qui veut dire que je ne peux pas moi-même créer la foi. Ça veut dire quoi? Je dois dépendre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. Je pense que notre sœur le disait. C'est l'Esprit de Dieu qui est au contrôle. C'est pas mon esprit humain qui décide à un moment donné de créer la foi. Et j'en profite pour faire une parenthèse que je refermerai. Je ferme toujours mes parenthèses, moi. C'est qu'il y a une différence entre la foi biblique et la contrefaçon de la foi. Il y a plus de 30 ans, des avertissements nous ont été donnés. Attention, des enseignements pernicieux pénètrent dans le corps de Christ par rapport à la foi. Et nous avons baptisé foi ce qui n'était autre que la puissance mentale en action. Nous avons baptisé foi ce qui n'était qu'en fait des mécanismes mentaux qui prônent la victoire de l'esprit sur la matière. C'est la puissance mentale en action. Et on a entendu des drôles de choses qui n'ont aucun fondement biblique. Il était question à un moment donné, tu prends la parole de Dieu. Allez, je veux être guéri. Je prends un verset. Par ces meurtrissures, je suis guéri. C'est vrai. Mais si ce verset ne m'est pas donné par Dieu, si l'Esprit de Dieu ne me donne pas ce verset, si ce verset n'est pas animé par l'Esprit de Dieu, elle reste lettre morte. Je prends ce verset quand même. Et je vais me mettre à confesser et à répéter. Mais il y a une différence entre la confession et la récitation. Il y a une différence. La véritable confession biblique, elle vient du cœur. C'est de l'abondance du cœur. C'est une parole qui est dans mon cœur, qui m'a été donnée par Dieu. C'est une parole de vie qui sort de mes lèvres. Et je confesse. Mais je peux prendre un verset, le confesser jusqu'au retour du Seigneur. C'est alors, cette foi contrefaite, c'est une puissance qui est dirigée contre Dieu pour le contraindre à faire ce que j'ai envie qu'il fasse. Rien à voir avec la foi biblique. Et on a été avertis. Mais comme souvent, nous n'avons pas pris garde. Souvent par ignorance. Et en réalité, il a été question de mettre en œuvre des mécanismes, de mettre en œuvre, en réalité, l'Église s'est ouverte à des pratiques qui relèvent de la sorcellerie. Quand il est question de puissance mentale en action, indépendamment d'une relation avec le Saint-Esprit, c'est moi, vous avez un subconscient, vous avez déjà entendu cela. Il y a des écrivains célèbres, vous avez un subconscient, vous mettez la parole de Dieu là-bas, et puis vous commencez à confesser, et le subconscient va travailler pour vous. Il a le potentiel de créer la foi. Et vous allez obtenir ce que vous voulez. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La foi, si je veux avoir la foi biblique, je dois rester en relation avec le Saint-Esprit. Ça veut dire, comme notre pasteur nous le dit souvent, je dois dépendre du Saint-Esprit. Je dois être dans l'attente jusqu'à ce qu'une parole sorte. Ça m'oblige à dépendre de Dieu. Je vais lire la Bible, mais je vais dépendre du Saint-Esprit. C'est lui qui va initier, qui va à un moment donné, souverainement à un moment donné, va te donner une parole. Il ne s'agit pas pour moi de faire comme cela, de m'adonner à toutes sortes de techniques. Il était question de visualisation. Vous visualisez. Il était question d'incubation. Votre esprit visualise la chose que vous voulez, vous incubez. Et vous allez créer la réalité que vous voulez. Ça, c'est de la magie, c'est pas la foi biblique. Je referme rapidement la parenthèse. On pourra revenir un peu sur ce texte. On pourra revenir sur cette réalité pour avertir l'Église. Je ne veux pas de cette foi. Elle produit des résultats extraordinaires. Mais quelle est la puissance qui se trouve derrière? Certainement pas l'Esprit de Dieu. Donc, j'ai besoin que la parole de Dieu me soit donnée. Vous savez, un prêtre charismatique, ce qu'il dit n'est pas tout à fait vrai. La Bible n'est pas la parole de Dieu, elle le devient par le Saint-Esprit. Mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. La Bible est la parole de Dieu, elle ne devient pas la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu. Mais elle libère son potentiel de vie. De transformation, elle est toute puissante la parole, elle a créé les cieux et la terre, elle libère son potentiel, que lorsqu'elle est stimulée, vivifiée, lorsqu'il y a le souffle de l'esprit qui la porte, et cette parole va engendrer la foi, une foi paisible, une foi solide, qui n'aura rien à voir avec la persuasion mentale.
Nous avons besoin. Vous vous souvenez, je vais prendre une illustration, je ne sais pas si au niveau de l'application c'est tout à fait ça, Laurent m'expliquera mieux s'il faut. Mais vous vous souvenez de l'épisode de la piscine de Bethesda. Vous vous souvenez de ça? Passage un peu étonnant, hein? Où un ange descendait, agitait les eaux. Et c'est seulement lorsque les eaux étaient agitées que le malade pouvait se jeter pour être guéri. J'ai l'impression que l'eau représente l'eau de la parole. Et nous avons besoin que les eaux soient agitées par Dieu lui-même. Je me souviens, témoignage de cette jeune fille. Elle était malade et paralysée depuis 12 ou 13 ans. Dieu n'empêche pas toujours la maladie. Mais dans son cas, elle était persuadée que Dieu lui avait envoyé cette paralysie pour lui apprendre une leçon. La leçon eût été de se dresser dans la foi et de revendiquer la guérison acquise par Christ sur la croix. Mais dans la mentalité de son église, on souffre pour la gloire de Dieu. Et donc, non seulement on ne lutte pas contre la maladie, qui est une oppression satanique, mais on loue Dieu. Alors, elle était en train de lire la parole de Dieu, elle ne faisait que ça. Et à un moment donné, elle avait lu je ne sais combien de fois, lui, dans l'épître de Pierre, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Bon, et à un moment donné, elle relit ce verset, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Cette parole logos, graphée, imprimée, devient une parole de vie. C'est comme si elle lit ce verset pour la toute première fois. Elle dit, j'ai été guéri il y a 2000 ans sur la croix. Je ne vais donc pas être guéri, mais j'ai été guéri. Tout d'un coup, ce verset prend vie. Et elle dit à sa maman qui était là, mais maman, qu'est-ce que je fais dans le lit puisque j'ai été guéri? Cette parole de vie, cette parole réma, cette parole soufflée de Dieu, cette parole parlée, cette parole que Dieu donne, engendre la foi. Et elle a rejeté ses couvertures, elle s'est levée, c'était terminé, instantanément guérie. Vous voyez? Alors, on a également parlé de l'expérience de Pierre marchant sur les eaux. Pierre est le seul être humain à avoir défié les lois de la nature en marchant sur les eaux, à part Jésus. Quand il voit Jésus, il n'est pas sûr que c'est Jésus. Entre parenthèses, il y a des gens, quand ils ne sont pas sûrs à 100% que c'est de Dieu, ils ne bougent pas. Tu n'es pas sûr que c'était Jésus, alors on ne bouge pas. Il ne sait pas sûr que c'est Jésus, mais je veux savoir. Et je suis prêt à faire une démarche. Et Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. En fait, Pierre est en train de dire, dis une parole. J'ai besoin d'une parole. Et le Seigneur lui dit à Pierre et pas aux autres, viens. Une parole réma, viens. Elle s'adresse à Pierre et à Pierre exclusivement. Cette parole réma va engendrer la foi qui permet à Pierre de marcher sur la crête des vagues. Mais avant de marcher sur la crête des vagues, Pierre a marché sur une parole de Dieu, sur une parole réma. Alors les conservateurs dans la barque, quand Pierre a failli couler, ont dû se marrer, bien sûr. Ils prennent jamais de risques, jamais. Mais ils n'ont pas fait l'expérience de Pierre. Vous savez, nous sommes responsables. Mon peuple périt, je le répète souvent, faute de connaissance. Mon frère, ma sœur, tu es responsable. Tu es censé connaître la volonté de Dieu. Tu es censé connaître la parole de Dieu et les principes spirituels contenus dans la Bible. Alors, Dieu a donné des ministères pour nous aider. Mais ça ne t'exonère en rien de la responsabilité que tu as de sonder les Écritures. Et l'ignorance des principes spirituels peut vous coûter la vie. Dieu, dans sa bonté, parfois peut intervenir, mais ça peut vous coûter la vie, simplement. Mon peuple périt,
Ou d'autres traductions, mon peuple a été emmené en captivité parce qu'il lui manque la connaissance. Le défaut de connaissance fait que le peuple de Dieu sera entraîné en captivité. On doit connaître. Par manque de connaissance, et je raconte cette histoire authentique, trois jeunes filles se retrouvent, reviennent d'une convention de l'église de Yodo en Corée du Sud, plus grosse église du monde et de l'histoire du christianisme. Mais il avait plu à verse pendant des jours et la rivière débordait de son lit. Elles ont pris la parole de Dieu. Elles ont dit, Pierre a marché sur les eaux. Donc, par la foi, je peux y aller. Je suis persuadé que si Pierre a pu le faire, moi je peux le faire. Nous pouvons le faire. Dieu ne fait exception de personne. Persuasion mentale. Elles se sont tenues par la main. Elles ont prié avec foi. Il n'y avait pas un atome de foi. Et elles se sont lancées pour marcher sur les eaux. On a retrouvé leurs cadavres à des kilomètres en aval, noyés. Et les médias se sont saisis de l'affaire en disant, voyez, ce sont des fanatiques. Ils s'entraînent à marcher sur les eaux. Pas du tout. À la différence de Pierre, ces jeunes filles n'avaient pas reçu une parole réma. Jésus ne leur avait pas dit, viens. Pour pouvoir faire cet exploit, il lui fallut, un, se tenir devant Dieu. Deux, que ce soit la volonté de Dieu. Et qu'à un moment donné, Dieu leur dise, viens. Que cette parole, viens, leur soit accordée, leur soit adressée. Elle aurait engendré la foi. D'autres ont marché sur les eaux. Le réveil en Indonésie, beaucoup de gens ont marché sur les eaux. Mais ils avaient une parole de foi. C'était la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu voulait. Dans le cas de ces jeunes filles, c'était de la présomption. Et elles ont tenté Dieu. Leur ignorance a fait que leur vie a été abrégée, tout simplement, dramatiquement. D'autres sont décédés stupidement. Je me souviens du cas d'une personne qui avait le diabète. Et elle dit, je vais jeter mes médicaments par la foi. Le problème, c'est que la foi ne vient pas du fait de jeter ses médicaments. C'était de la présomption. C'était un manque de connaissance. La personne est décédée par manque d'insuline. Alors, j'ai besoin de recevoir une parole de Dieu. Et lorsque je reçois une parole de Dieu, ça veut dire, Saint-Esprit, je dépends de toi. Il en a toujours été ainsi. La vie chrétienne n'est pas faite. On ne peut pas vivre la vie chrétienne indépendamment d'une relation d'intimité avec Dieu. On ne peut pas prendre des principes bibliques, les manipuler, etc. Contraindre Dieu, forcer Dieu. C'est cette foi contrefaite qui plonge ses racines dans l'occultisme et qui aura toujours des conséquences désastreuses. Même si vous avez des résultats, c'est pas ça. C'est une foi confiante dans un Dieu bon et souverain. Un Dieu qui sait ce qu'il fait. Un Dieu plein de sagesse qui à un moment donné me donne une parole. Je te donne une parole. Ça t'oblige de lire la Bible. Et ça t'oblige à attendre que Dieu te parle, que Dieu te donne une parole. Sinon, c'est la lettre, et la lettre tue, la lettre, elle dessèche. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne. C'est pour ça que Paul disait, je prie, afin que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attend, qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de l'héritage qu'il nous réserve en tant que saints. Nous avons besoin d'une révélation. Nous avons besoin que le livre soit animé. Nous avons besoin que les pages de la Bible soient parcourues par le souffle de l'Esprit pour que cette parole, alors c'est une parole vivante et c'est une parole qui a un potentiel extraordinaire. Elle chasse la maladie, elle chasse la mort, elle est toute puissante parce qu'elle vient de Dieu. Mais elle est toute puissante que dans la mesure où elle est animée par le souffle de l'Esprit. Alléluia. Il ne s'agit donc pas de prendre simplement un verset, de le confesser, d'incuber, de visualiser. Il se peut que tu aies des résultats, mais la puissance qui est derrière est satanique. Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Je me suis bien renseigné, j'ai lu des livres que j'ai dû me départir parce que j'ai dû enseigner sur l'occultisme un jour. Et puissance mentale en action. L'origine de cette foi, elle est en l'homme. Elle est en l'homme, c'est l'homme qui ? Non, La foi biblique, une relation avec Dieu. Dieu parle. Et on est confiant dans la sagesse de Dieu qui nous donnera ce qui convient de nous donner. Je vais terminer la prédication. Il y aurait tellement à dire. Vous savez, sur le domaine de la foi, pour en revenir un peu au témoignage que je disais tout à l'heure, concernant mon témoignage, je pense que le Seigneur dit à beaucoup. Je suis venu vers toi avec les bras débordants de cadeaux. Plus d'une fois. Plus d'une fois, j'ai voulu te bénir, si tu savais. Mais je n'ai rencontré que ton incrédulité. J'aurais voulu voir, ne serait-ce qu'un atome de foi, un grain de moutarde de foi. Je n'ai eu que l'incrédulité. Or, Jacques nous dit que celui qui demande doit le demander la sagesse, mais autre chose, il doit la demander avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable aux vagues d'un océan qui sont ballottées de droite et de gauche. Écoutez bien, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu et inconstant. Tu ne reçois rien dans un premier temps parce que tu ne demandes pas. Et tu ne demandes pas parce que tu sais que ça ne vaut pas la peine de demander tellement tu es incrédule. À quoi ça sert de prier? De toute façon, il ne répond pas. Tu demandes, mais où est ta foi? J'ai voulu te bénir plus d'une fois. Et l'éternité révélera le nombre de fois que je suis venu. J'ai parfois même, après un temps de prière, de jeûne, j'ai dépêché un ange pour te bénir, pour venir t'apporter la réponse. J'ai fait l'image avec Daniel. Et à un moment donné, on a dû rappeler l'ange. Reviens. Pourquoi? Écoute ce qu'il est en train de dire. Je crois pas que Dieu va me bénir. Moi, je mérite pas. Vous annulez l'effet de votre foi. Dieu veut nous bénir. Et le manque de foi t'empêchera d'entrer dans ton héritage. Le peuple hébreu n'est pas entré dans son héritage, pas à cause de son adultère, on ne va pas minimiser ses péchés, pas à cause de ses nombreuses actions idolâtres, mais à cause de leur incrédulité. C'était un problème que Dieu voulait traiter dès la sortie d'Égypte. Aux eaux de Marat, Dieu voulait traiter ce problème. Si tu veux continuer avec moi, il va falloir que tu te délestes de cette attitude que tu as, cette propension à la plainte, au murmure qui est le langage de l'incrédulité. Il va falloir que tu apprennes à me faire confiance. Et pour certains d'entre nous, ce n'est que ça. Mais c'est énorme. Il y a des chrétiens qui font tout ce qu'ils doivent faire, se repentent. Dieu est prêt à briser leurs chaînes. Il suffirait qu'ils saisissent par la foi la victoire et seraient libérés, sans même qu'on ait besoin d'intervenir. Mais il n'y a pas cette foi. Il n'y a que de l'incrédulité. Il y a de la persuasion mentale, mais il n'y a pas cette foi du cœur qui est conquérante et qui s'empare des promesses de Dieu. Ce sont ceux qui sont violents dans la foi. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et si nous voulons nous emparer des promesses de Dieu, de ce territoire qui est devant nous, quand le Seigneur dit à Israël, « Je t'ai donné la terre promise, c'est fait, spirituellement c'est à toi », mais quand Dieu dit « Je te l'ai donné », ça veut dire que tu vas devoir te l'approprier. C'est pas « Je te l'ai donné, je prends un billet de 20 euros et je te le mets dans la poche ». C'est pas ça. Je tends le billet et tu dois venir chercher. Seulement, entre l'endroit où tu es et la bénédiction, il y aura une opposition parce qu'il y en a un qui ne veut pas que tu sois béni. Et tu devras forcer le passage. Les Hébreux devaient soumettre les géants et conquérir. Et le Seigneur leur a dit « Chaque pas que vous ferez, c'est à vous ». Et le terme pour le pas que vous ferez, c'est le terme d'arak en hébreu. Chaque fois que vous ferez d'arak, c'est un pas militaire. D'ailleurs aujourd'hui, les Israéliens, lorsqu'ils chargent leurs fusils, ils disent d'arak. C'est pas une promenade de santé, c'est une conquête. Et chaque morceau de terrain que tu vas conquérir, c'est à toi. Mais il va falloir y aller. Il y a donc, entrer dans son héritage ne se fera pas sans difficulté. Saisir les promesses de Dieu, faire en sorte que ces promesses qui sont là deviennent une réalité dans ma vie, ne se fera pas sans combat et sans lutte. C'est pour ça qu'à trois reprises, à deux reprises, le peuple dit à Josué, mais fortifie-toi et prends courage, ça va pas être évident d'entrer dans ton héritage. Ça va pas être évident, mais je combattrai à tes côtés. Et pour cela, il faut, bien sûr, l'élément de la foi.
J'aimerais terminer sur un point d'une extrême importance et qui est souvent une source de confusion pour beaucoup. C'est lorsque le Seigneur dit en Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a là deux temps. Le Seigneur dit, croyez que vous l'avez reçu. Et dans un deuxième temps, vous le verrez s'accomplir. Si, et ça c'est important, écoute bien, si tu n'as pas reçu spirituellement la chose que tu as demandée, ça veut dire quoi? Tu as demandé quelque chose. Mais si tu n'as pas reçu spirituellement, s'il n'y a pas eu une parole de Dieu, une promesse de Dieu, pleine de vie, qui a engendré la foi pour que tu puisses dire « Je sais que j'ai reçu », tu n'as aucune garantie de voir cette chose s'accomplir. C'est ça que Jésus veut dire. Il y a des gens qui disent « J'ai reçu », ils n'ont pas reçu. Du tout. Ils ont pris un verset comme ça. Ils n'ont pas reçu. Il n'y a pas eu la réception d'une parole de foi. Il n'y a pas eu la réception donnée par Dieu à un moment donné. Et le « et vous le verrez s'accomplir » ne s'accomplira pas. D'où les grandes déceptions, où Dieu ne sera pas au rendez-vous de nos attentes. Par contre, si j'ai reçu, j'ai la garantie absolue que je verrai s'accomplir ce que j'ai reçu, concrètement. Entre ces deux temps, la réception et l'accomplissement de ce que j'ai reçu, il peut s'écouler du temps, des mois, des années. Et ce temps en question est déterminé par qui, par quoi? Par la souveraineté de Dieu et la sagesse de Dieu. C'est Dieu à un moment donné qui dit, ce que tu as reçu, je te le donne maintenant, concrètement. Mais pendant ce temps-là, entre... Parce que quand on reçoit, la foi n'est jamais, c'est pas quelque chose d'agité. J'ai la foi, je crois, j'ai la foi. Non. J'ai remarqué, j'ai pas souvent expérimenté, rassurez-vous, mais de toute façon, c'est quelque chose de paisible. Paradoxalement, on travaille pour entrer dans le repos. Je vais prendre un seul exemple pour illustrer. Je me suis converti en février 83. Et mon expérience était tellement extraordinaire, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut recevoir de plus? On a tout reçu. Baptisé d'eau, 6 mois plus tard. Et puis, à un moment donné, on dit, mais tu dois être rempli, baptisé dans le Saint-Esprit. Bon. J'ai tellement reçu. Et tout d'un coup, une soif s'empare de moi. Mais une soif. Pour recevoir le baptême dans l'Esprit. Parfois, il y a des gens qui veulent le baptême dans l'Esprit. Ils viennent avec une désinvolture. Moi, ça m'a toujours été un peu étonné. Ils sont là. Ouais, je veux bien. Pourquoi pas? C'est une expérience comme une autre. Il n'y a pas cette recherche ardente, cette foi, cette soif. Je me retirais dans les forêts chimassiennes pendant des journées entières et je soupirais littéralement après Dieu, baptise-moi dans le Saint-Esprit. Ça a duré des mois. Baptise-moi dans le Saint-Esprit, Seigneur. Et dès qu'il y avait des serviteurs de Dieu qui étaient là et qui imposaient les mains pour le baptême de l'Esprit, je m'avançais, on m'imposait les mains, je sentais l'onction, mais ça pénétrait pas. L'onction, c'était comme une douche, ça coulait, mais ça pénétrait pas. Et un jour, j'ai eu un songe où Dieu me dit, mais tu l'étouffes. J'étouffe l'Esprit de Dieu. Je ne savais pas trop par quoi. Après, j'ai compris. Continue à prier. J'ai continué à chercher Dieu. Donc, il y a le travail de l'âme où on cherche. Et à un moment donné, j'étais à genoux, au pied de mon lit. Et là, j'ai su. J'ai même pas eu besoin de sentir. J'ai su que j'avais reçu. Tout d'un coup, mon cœur s'est apaisé. J'ai reçu. Je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Mais je verrai la manifestation. On m'avait pas enseigné cela. J'ai reçu. Je suis entré dans la paix. À partir de ce moment-là, j'étais heureux et je disais, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, mais la manifestation de ce baptême qui va s'exprimer par l'expression des charismes, parler en langue, etc., viendra plus tard. Mais là, je suis dans la paix. C'est fini. La foi, elle s'exprime par le repos et la tranquillité. Je sais que j'ai reçu. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que je suis censé faire? Le langage de la foi, c'est la louange et l'adoration. Je te loue parce que j'ai reçu.
je te bénis parce que j'ai reçu. La foi sera testée et éprouvée dans cet intertemps. Là, une foi qui n'est pas éprouvée, elle ne vaut pas grand-chose. Elle sera testée parce que parfois ça peut prendre des années, mais j'ai reçu. Il y aura le combat de la foi, il y aura des tentatives, l'incrédulité voudra reprendre racine, mais je maintiendrai le langage de la louange et de la foi. Les mois se sont écoulés, j'avais reçu. Je priais plus pour recevoir, puisque j'avais reçu. Et à un moment donné, déterminé par la souveraineté de Dieu, j'étais assis dans un lieu de culte, quand tout d'un coup l'onction de Dieu est venue sur moi. Et le Seigneur, a pris le contrôle de ma langue, et je me suis mis à parler en langue, une phrase, une deuxième phrase, troisième phrase, doucement, parce que c'était une église qui n'était pas très ouverte, Dieu est sage. Et puis dans un autre contexte, il y a eu plusieurs baptêmes de l'esprit, plusieurs remplissages de l'esprit. J'avais reçu spirituellement, et à un moment donné, déterminé par la volonté de Dieu et par la souveraineté de Dieu, concrètement ce que j'avais reçu, je l'ai expérimenté. Comprenez ce que je veux dire? Mais si tu n'as pas reçu, assure-toi que tu as bien reçu. Te contente pas de dire j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu. J'ai reçu spirituellement. Il y a quelque chose qui s'est déposé en moi, qui a engendré une foi paisible. Et dans cet intertemps, commence à le louer, commence à l'adorer pour ce qu'il t'a donné, pour ce qu'il t'a reçu. Ta foi sera éprouvée, éprouvée. Tu auras des moments de recul, des moments de chute, mais si tu persévères dans la foi, si tu ne laisses pas prise à l'incrédulité ce que tu as reçu, tu as la garantie de le voir s'accomplir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.